Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. C'est Pauline Hénio et je me frotte les mains parce qu'aujourd'hui j'ai une superstar du monde de l'équitation. Et ça fait très longtemps que vous êtes nombreux et nombreuses à me demander d'avoir une personnalité du monde de l'équitation. Et là je vous ai sorti le grand jeu avec Michel Robert. Alors, le cavalier français tout simplement le plus médaillé. 5 fois champion de France, multimédaillé olympique, champion du monde, gagnant du top 10, il est aussi parrain actuellement du saut Hermès. Bref, il a tout fait, tout vu. Il connaît le monde de l'équitation depuis son plus jeune âge et pour tout vous dire, petite anecdote rigolote, il a même commencé à monter, à s'entraîner sur un mouton, et apparemment il y a d'ailleurs des vidéos qui se baladent sur YouTube que vous pourrez peut-être trouver qui doivent être assez rigolotes, je suis sûre. De quoi est-ce qu'on a parlé avec Michel? En fait, de son parcours, bien sûr, de son mental surtout. Parce qu'en fait, il n'est pas arrivé là par hasard. Au-delà de son amour pour le monde animal, pour la nature, il a en fait vraiment dédié sa vie à l'art de la compétition. Et c'est absolument passionnant. Vous allez voir à quel point il a vraiment mis ses tripes finalement dans son métier. Et jusqu'à aujourd'hui, alors qu'il a plus de 70 ans, il continue vraiment à monter et à se passionner pour ce métier. Au-delà de ça, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, Michel nous explique qu'il a finalement eu deux vies, une vie où il ne prenait pas vraiment soin de lui jusqu'à l'âge de 35 ans à peu près, et puis une sorte de renaissance où il avait commencé à s'écouter davantage et surtout à prendre soin de lui, et il ne s'est jamais senti aussi bien que depuis qu'il a environ 70 ans. Comme quoi, la vie n'est pas forcément une longue pente descendante. C'est en tout cas le message de Michel que je trouve extrêmement rafraîchissant. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Michel Robert. Bonjour Michel.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir, merci d'être venu jusqu'à nous, ça fait loin en plus.
Oui, c'était l'occasion de venir à Paris avec le saut Hermès, la compétition qui a lieu sous la tour Eiffel, et donc je suis le parrain de cette manifestation, donc je suis... C'était l'occasion aussi.
Eh ben, c'est un grand honneur pour nous. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent, qui rêvent de ce moment, parce que franchement, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui sont vraiment fans d'équitation et du monde du cheval de manière générale. Donc, je suis ravie de vous avoir. Et Michel, pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, je me suis dit que ça serait intéressant de commencer par les débuts et de revenir à votre enfance et de revenir au petit Michel qui, je crois, est né à la campagne, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pourriez justement nous parler un petit peu de votre enfance, de votre vie de famille? Enfin, comment c'était? Où est-ce que vous êtes né? Comment étaient vos parents et comment vous étiez petit?
Pour situer, c'était dans le Dauphiné, à Corbelin, c'est dans l'Isère, à côté de Lyon pratiquement. Et mon père était médecin de campagne et il faisait ses visites médicales à cheval ou en voiture à cheval. Et moi, tout gamin, il y avait des chevaux à la maison et bien sûr, j'étais en admiration devant ces animaux dès le départ. Et lui m'a transmis la passion, bien sûr. Et un fait un peu spécial, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de petits chevaux ou de poneys, et donc j'ai commencé à monter à cheval sur un mouton, avec une selle.
Vous avez réussi à monter sur un mouton?
Vers l'âge de 4-5 ans, et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé.
C'est alors, est-ce que le mouton se monte comme un cheval, ou il y a
non,
quand même...
Non, c'est très difficile. Je vous le déconseille, parce qu'il ne marche que dans un sens, c'est direction la bergerie, c'est-à-dire qu'il faut l'emmener assez loin, monter dessus et revenir au galop.
C'est ça.
Et moi, je arrive à sauter avec quand même ces moutons.
Ouais.
C'était mon père m'avait fait un petit bride et puis il avait trouvé une petite selle que l'on mettait là-dessus.
Incroyable.
C'était assez sympa. Donc j'ai démarré un peu dans cette ambiance un peu originale d'un père original aussi et qui avec beaucoup d'amour. On était 6 enfants, donc je suis le dernier de la famille et un peu tous dans les chevaux dans la famille quand même.
Donc il y avait quand même un environnement vraiment lié au monde du cheval en fait.
Moi ça n'a pas été, j'ai jamais eu la question de savoir ce que je voulais faire quoi. C'était, je savais pas ce que j'allais faire avec ces animaux, mais j'allais rester à côté d'eux, ça c'était sûr. Pour moi c'était primordial, ouais.
Incroyable. Je sais que vous avez fait assez tôt dans votre vie un tour du monde. Très important, si je ne me trompe pas, pour vous. Est-ce que vous pourriez me parler de ce fameux tour du monde? Qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté l'Isère, que vous avez quitté vos moutons, vos chevaux, pour vous lancer dans ce tour du monde?
Oui, non, je voulais voir ailleurs, on va pousser un peu plus loin. Le tour du monde, c'est un peu imaginaire, parce que je l'ai fait en compétition, en faisant mes compétitions tout au long de ma carrière. J'étais parti pour faire le tour du monde, pour voir, oui, les limites, etc., et chercher mes limites à tout niveau, aussi bien dans les distances, que dans ma tête, que dans mon physique, dans ce que je pouvais faire avec les chevaux. Donc, on a démarré vraiment à zéro. J'ai démarré comme palefrenier, etc. Donc, et puis après, ben, bien sûr que au fil des voyages, j'ai pris de l'expérience. Ouais.
En fait, l'idée de ce tour de monde, c'était de vous former justement sur les métiers de l'équitation.
Oui, en fait, le tour du monde, je l'ai fait un peu dans ma tête. En fait, je l'ai fait. Je suis parti. J'ai pas fait le tour du monde vraiment. J'ai fait tour du monde de l'équitation en général, de ce qui pouvait se faire en équitation,
d'accord,
mais pas vraiment le tour du monde comme on s'imagine, d'accord, en bateau ou à pied ou avec mon sac à dos. C'était pas mon rôle. Ce que je voulais voir, c'est aller voir ailleurs un peu plus loin. Et là, je me suis retrouvé dans une écurie d'un professionnel à côté comme groom. Et puis après, cette personne-là est décédée rapidement d'un accident de voiture, donc j'ai repris l'écurie où il y avait 80 chevaux quand même.
Incroyable.
Donc je suis passé de l'état de palefrenier à l'état de cavalier responsable de grande écurie. Donc ça a été à l'âge de 22-23 ans par là.
Une sacrée responsabilité quand même, tout d'un coup.
Tout d'un coup, oui. Tout d'un coup, ça fait lourd. Et puis bon, ben, c'était l'occasion, moi, de passer un cap supérieur. Puis ça s'est enchaîné comme ça après, très très vite.
Comment est-ce que vous avez fait pour, justement, apprendre, c'est une question peut-être un peu stupide que je vais poser, mais au final, quand on connaît votre palmarès, alors que vous veniez d'un milieu où vous n'aviez peut-être pas forcément des cours d'équitation, enfin, vous baigniez dans le milieu, mais je veux dire, il n'y avait pas de cours particuliers pour la compétition, quelles ont été, en fait, vos motivations pour apprendre vraiment le métier de cavalier et pour devenir ensuite un champion?
Je crois que c'était dans mes gènes ou dans je sais pas quoi. C'est cette progression qui m'habite tout le temps. C'est de vouloir progresser, de vouloir comprendre, de vouloir apprendre, d'apprendre avec les chevaux et comment fonctionne un cheval, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, pourquoi les humains font ci, pourquoi les humains font ça. Essayer de comprendre tout ce monde qui était autour de moi, mais à travers les chevaux, à travers la nature, et le cheval pour moi était un support magnifique et qui m'a appris à vivre, qui m'a appris tout, quoi, qui m'a appris après à aimer les personnes, les gens, et qui m'a appris aussi à les comprendre et à savoir comment leur parler, comment leur dire, comment leur demander les choses, comment vivre avec aussi. Donc je crois que c'est toute une expérience de vie que m'ont appris les chevaux, et donc sans passer par le côté technique, bien sûr qu'il y a un côté technique qui est arrivé. Il fallait apprendre à le plus de techniques possible, mais ça, c'est assez facile, tout le monde peut le faire. Mais la sensibilité du cheval et la compréhension, ça demande beaucoup plus de temps à passer avec eux pour les comprendre, pour arriver à... Ils sont tous différents, comme les humains. Il n'y a pas tellement de différence entre un cheval et un humain, en fait.
Ah ouais.
Non. Les chevaux sont aussi intelligents, ils ont leur intelligence. Mais c'est un peu la même façon de traiter d'approcher ou de comprendre les chevaux et les humains. Je fais pas tellement de différence.
Il y aurait une expérience, un moment qui vous vient à l'esprit, un souvenir, justement, d'une réaction d'un cheval ou d'un caractère d'un cheval, justement, pour qu'on puisse comprendre ce que vous voulez dire quand vous dites qu'ils ont chacun, en fait, non seulement leur caractère, mais en fait, c'est un peu comme des humains, oui. Ils sont tous différents.
Exactement, oui, non, j'ai eu des tas d'expériences avec, surtout au départ, quand je commence avec des nouveaux chevaux, je reçois des chevaux avec du caractère qui ont eu un passé très difficile, que des chevaux qui ont été battus ou qui ont été drogués ou qui ont été... Comme les humains, pareil. J'ai le même cinéma, le même historique, et ils arrivent là en colère. Et je veux rien faire. Foutez-moi la paix. Vraiment une impression d'incompréhension complète. Et alors là, c'est passionnant parce qu'il faut reprendre déjà prendre sur soi-même d'être tranquille, d'amener du calme, d'amener de la sérénité, d'amener de la confiance. Et progressivement amener le cheval ou la personne à justement être, à retrouver sa bonté elle-même, et puis de lui demander des choses très très simples, même si c'est un cheval fou, même dangereux, lui demander des choses très très simples jusqu'à ce qu'il réponde oui gentiment et le récompenser beaucoup. Et après, progressivement, demander des choses un peu plus compliquées et avancer dans cet état-là d'esprit. Et c'est une recherche qui est vraiment très intéressante parce que c'est la recherche déjà, il faut être bien soi-même, bien dans son physique, bien dans sa tête pour pouvoir communiquer avec l'autre correctement. Et après, il faut toucher à la fois le physique qui a été détérioré par son histoire ou son mental qui a été détérioré par qui ne veut plus sauter ou qui s'arrête ou qui veut plus aller travailler. Enfin voilà, toutes des choses qui sont la psychologie à la fois humaine et équine qui sont importantes, donc qui me passionnent. Moi, je suis passionné par ça.
Ben, ça se sent. Ça se sent et c'est intéressant parce que vous disiez, et je l'avais d'ailleurs lu dans une de vos citations, que vous aviez commencé à aimer les chevaux et ensuite les êtres humains et que finalement, bah, il fallait comprendre que l'équitation, c'était pas une activité physique uniquement, il y avait beaucoup de psychologie. Moi, c'est un domaine qui m'intéresse aussi beaucoup, la psychologie. Et donc, je voulais comprendre finalement, c'est peut-être une question bête une fois de plus, mais qu'est-ce que les chevaux vous ont appris sur les hommes ?
Ben, ils m'ont appris à m'aimer moi-même déjà à savoir que j'étais... Mais je pense que le jugement de l'autre était pour moi important et que les autres me jugent, ça me gênait beaucoup. Donc le cheval, il ne juge pas déjà. Il est là, ça va, et puis c'est tout. Il va pas regarder si j'ai un pantalon comme ça ou si j'ai un machin. Je veux dire, il pardonne beaucoup et donc c'est un animal qui vous juge pas finalement. Il vous donne ou il vous donne pas. Puis voilà, c'est tout quoi. Et donc là, ça a été une bonne chose. Et après, c'est vrai que le jugement humain, ben en compétition, on a quand même une image de cavalier olympique, etc. Ouais. Donc là, on a des jugements qui viennent un peu fort. On a notre ego qui vient très fort aussi. Donc, il faut arriver à gérer ça. Mais le côté, bien sûr, qu'on sait tous que pour se ressourcer, il faut aller dans la nature, il faut aller voir les arbres, il faut marcher dans la campagne, etc. Ou être avec un animal, c'est tellement, tellement agréable. Mais donc, moi, je pense que le contact avec l'animal, pour moi, était extraordinaire. Ça, c'est vrai, oui.
Ça vous a permis de vous libérer un peu du jugement et d'être plus vous-même, peut-être.
Voilà, mais je suis toujours sur la route. Hein. je ne me sens pas arrivé encore. Hein.
On n'arrive jamais.
Voilà, j'ai encore du travail à faire. J'en ai fait. J'ai compris beaucoup de choses. Ça, déjà pas mal, oui.
Pour revenir sur votre parcours et votre carrière, alors j'ai évidemment regardé votre palmarès, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais 5 fois champion de France, multimédaillé aux Jeux Olympiques, championnat du monde, championnat de France complet, gagnant du top 10 en 2008, gagnant du Global Champion Tour en 2009, enfin bref, ça ne s'arrête pas, ouais. Il y en a certainement d'autres. Ouais. Et du coup, je voulais aborder un sujet qui était le fait que quand on a tout fait, qu'on a tout connu et qu'on a tout gagné quand même, ce qui était un peu votre cas, dans son domaine, qu'est-ce qui nous pousse à chaque fois à continuer ? Parce que quand on gagne une première fois un championnat, bon ben on se dit « Ok, j'en veux un deuxième, etc. Je vais peut-être prouver quelque chose. » Mais il y a un moment donné où en fait, dans votre cas, c'était quand même... je veux dire, vous avez imposé finalement votre supériorité, si je puis dire. Et donc, je voulais savoir finalement, qu'est-ce qui vous a toujours poussé à continuer à aller plus loin ?
Oui, je pense que dans la réflexion normale, c'est de dire qu'est-ce que je vais faire dans l'avenir, je veux dire. J'ai été interviewé il n'y a pas longtemps aussi pour un podcast et les avais retrouvés dans les... déclaration que j'ai fait en 82, je disais, 1982, je vais avoir encore 10 ans de carrière, et donc il faut que j'en profite. Et là, ça fait plus de 30 ans maintenant, et j'en profite encore.
Vous n'êtes pas prêt de vous arrêter.
Voilà, donc il n'y a pas de limite, bien sûr, il n'y a pas de limite pour moi dans ma tête. Simplement, j'ai besoin de le passé, pour moi, il n'y a pas d'importance, il y a très peu d'importance. Tous ces résultats, c'est tant mieux, c'est bien, bon, ok, mais... Ce qui m'intéresse, c'est de vivre bien le moment présent et surtout d'avoir quelque chose devant moi à faire et à, pas à prouver, mais à continuer pour à progresser. Donc, c'est chaque fois un nouveau challenge, chaque fois un nouveau cheval, chaque fois des nouvelles épreuves, chaque fois, on va dire, des nouveaux obstacles, puisque c'est mon métier de sauter des obstacles. qui se présentent là-devant, et il faut résoudre ça assez rapidement, comme il faut, de la meilleure façon possible. Mais je crois que c'est important d'avoir, pour faire avancer l'âne, d'avoir une carotte au bout du bâton, quoi. Je veux dire, il faut qu'on ait quelque chose à prouver. S'arrêter en disant, ben voilà, oui, j'ai gagné les Jeux Olympiques, ou j'ai fait ci, j'ai fait ça, maintenant ça va, c'est pas du tout ma façon de faire, du tout, du tout. Non, bon, ça amène de l'eau au moulin de gagner, ça m'a permis de continuer, d'avoir des bons résultats, bien sûr, d'entretenir financièrement mon écurie, de continuer, etc. Mais je crois que l'avenir, pour moi, j'ai vraiment, comme à cheval, toujours le regard est très important, le regard sur l'avenir. Et je compare toujours aussi l'équitation avec la vie de tous les jours, c'est-à-dire quand vous êtes à cheval à quelques mètres d'un obstacle, si vous arrêtez votre vue à l'obstacle, le cheval s'arrête à l'obstacle. Il faut voir la vie après l'obstacle. La vie après l'obstacle, et à ce moment-là, l'obstacle devient anodin, et votre vie est donc arrivée à avoir cette vision du futur qui permet de passer tous les obstacles. Et on ne s'arrête pas à l'obstacle en disant « j'ai un problème en ce moment ». Non, on essaie de trouver les solutions pour aller de l'autre côté, quoi. Donc pour moi, c'est important de continuer, de voir après, voir qu'est-ce que je vais faire dans un an, dans deux ans, dans 10 ans, et continuer malgré tous les résultats qui sont satisfaisants, mais j'en fais pas une gloire, quoi. Je veux dire, je trimballe pas mes médailles autour du cou, quoi.
Non, je vois ça effectivement, mais c'est hyper intéressant ce que vous dites sur j'y avais jamais pensé, pour tout vous dire, le fait que l'équitation et le fait d'avoir ces obstacles, notamment ces obstacles, bah en fait c'est une vraie métaphore de la vie, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez dingue, hein.
Oui, c'est tout, c'est exactement comme ça. Et moi, je suis coach, je suis entraîneur de très très grands cavaliers qui vont aux Jeux Olympiques, entre autres. Et ma méthode, elle est basée beaucoup sur le regard et la respiration, justement. Et sans ce regard, ou sans cette projection, ou sans cette imagination du futur, mais c'est ce que vous faites avec votre entreprise, avec tout. On ne peut pas monter quoi qu'on le fasse si on n'a pas une vision un peu du futur, de ce qu'on veut faire, l'envie. Si en plus on a la passion de ce que l'on fait, qu'on croit en soi, en général ça marche pas très bien. Mais si on arrête son regard à l'obstacle, par exemple, comme je le dis souvent, ou si on a peur de l'obstacle, évidemment on serait dit à l'abord sur le cheval, ou on serait dit face à un rendez-vous, face à quelque chose d'important.
Ouais.
Et à ce moment-là, on n'est pas du tout opérationnel. Et c'est simplement le fait de dominer la situation, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est ce qu'on fait en compétition tout le temps. C'est qu'il faut arriver à ne pas se laisser dominer par la situation, mais dominer la situation elle-même. Et le regard aide beaucoup. Et la façon moi, j'appelle ça le regard panoramique, c'est d'avoir une vue d'ensemble des choses, tout en restant soi-même et être opérationnel avec son corps, avec son mental, quoi.
Ouais, c'est la difficulté, c'est à la fois de se projeter dans l'avenir et de voir au-delà des obstacles, et en même temps d'être dans l'instant présent pour faire, et puis peut-être en profiter aussi.
N'oubliez pas votre cheval. Il faut aller là-bas, mais n'oubliez pas votre cheval.
Ouais, c'est hyper intéressant. Est-ce que vous avez déjà eu des moments de doute à un moment dans votre carrière? Des moments peut-être où vous avez dit, je sais pas, la compétition... En fait, c'est trop fatigant, j'en ai marre, ou cette écurie, trop compliquée. Vis-à-vis, j'entends peut-être du monde justement de l'équitation, où vraiment ça n'est strictement
jamais
arrivé.
Non, ça pas. Alors, le doute, oui, je ne vais pas dire que j'ai jamais eu de doute. Hein. Le doute par rapport à mon métier, non. Par rapport à continuer quelques fois, mais très rarement, par rapport à cette carrière-là, vraiment très très rarement, parce que chaque fois c'était un nouveau challenge, un nouveau cheval qui arrivait, une nouvelle situation, et il faut en sortir. J'étais habitué à être enragé dans cette façon de faire. Donc, non, le doute, c'est important. Oui, c'est important d'avoir cette vigilance, d'avoir ce moment de réflexion qui nous permet de voir, de ne pas être la tête brûlée qui va se taper la tête contre le mur, quoi, je veux dire, effectivement. Mais après, c'est simplement une gestion des pensées, que ce doute ne vienne pas entraver les projets, quoi. Je veux dire, faut pas qu'il prenne de l'importance. Ouais. Faut pas lui laisser prendre de l'importance.
Vous auriez un exemple d'un de vos plus gros moments de doute?
Qu'est-ce que j'ai comme un plus grand moment de doute? Non, après j'ai eu des périodes où j'ai, quand j'ai arrêté de haut niveau de saut d'obstacle, c'est-à-dire que je voulais, il fallait absolument rester dans les 30 premiers pour être qualifié, pour faire toutes les épreuves, etc. dans les 30 premiers mondiaux, donc ça demandait beaucoup de compétition. Et à un moment donné, j'ai dit qu'est-ce que je fais. J'ai pris quand même 3 semaines, 1 mois avant de décider de dire bon, je vais continuer à monter en compétition, mais plus rechercher ce classement dans les 30 premiers mondiaux qui nous demandait beaucoup de déplacements, beaucoup de, pas de sacrifices, mais beaucoup de travail pour les chevaux, pour tout le monde, les voyages, etc. Ça devenait vraiment infernal. Donc là, il m'a fallu un moment pour décider d'arrêter ça. Et bon, mais je continue à monter en compétition quand même. Ça a été un moment où, oui, il faut prendre des décisions, oui, bien sûr.
Et comment vous avez réussi à prendre cette décision? Je vous pose la question parce que beaucoup de personnes, et moi y compris évidemment, face à une croisée des chemins, on se dit il y a ces deux options, peut-être même parfois il y en a plus que deux, il y en a 4-5, et on ne sait jamais vraiment comment décider. Et beaucoup de personnes, en fait, ne décident jamais, quoi, d'une certaine manière. Et ça, c'est assez terrible. Analyse, et puis finalement, se laisse toujours un petit peu porter. Vous, dans ce genre de moment, celui-ci ou un autre, comment est-ce que, est-ce que vous êtes du type de personnalité en fait à prendre la décision plutôt rapidement, ou vous prenez du temps pour y réfléchir, vous poser, décanter, et ensuite justement vous arrivez à être assez sûr de vous, quoi, parce que c'est aussi une question de confiance.
Plus l'objectif que l'on veut atteindre est clair, plus la décision est facile à prendre. Après, entre le moment où on veut aller, on sait qu'on veut aller là-bas, on veut faire quelque chose. Après, vous avez dit le changement de route. Oui, il y a une route qu'il faut suivre. On s'écarte un petit peu de la route, etc. Je crois que la décision, elle vient du fait que j'aime bien, en tout cas moi, être simple avec moi-même, c'est-à-dire de dire bon, je mets les deux cas de figure, s'il y a deux cas de figure sur le papier, en disant je fais ça ou je le fais pas. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que je retrouve, etc. Et de manière à avoir le penchant, quoi. Et si on, dans la solution, la deuxième solution qui nous paraît, par exemple, pas très bonne, etc., si on se met dans la situation, imaginez qu'on va être dans cette situation dans quelque temps, etc., et qu'on voit, moi, finalement, ça ne me plaît pas. Donc, je pense que la décision, elle est assez vite prise. Certains font pile ou face, et en espérant que la pièce tombe du bon côté. Donc, en général, c'est le côté qu'on aimerait aller, quoi. Donc.
C'est une technique aussi.
C'est une technique, dire je vais faire pile ou face, et puis finalement, non, j'ai trop peur, je prends cette décision-là. Ça va beaucoup plus vite.
C'est clair. Si on continue un petit peu sur votre carrière, et votre carrière de champion notamment, parce que vous avez d'autres carrières, notamment avec le coaching, enfin avec tout ce que vous faites, est-ce que vous auriez un meilleur souvenir sportif? Quelque chose qui vous a particulièrement ému, une compétition que vous avez gagnée, qui n'a été inattendue, enfin, je ne sais pas, mais vraiment...
Ça arrivait assez souvent. C'est arrivé assez souvent, je le repensais un peu ce matin encore, c'est que c'est incroyable les hasards de la vie, qui ne sont pas des hasards, mais de voir que parfois c'est dans les moments où ça ne va pas, où c'est difficile, où je doute justement peut-être de moi. Je me souviens d'une fois à Sao Paulo, on était loin, toute l'équipe de France là-bas, il y avait une compétition et... Au bout du troisième jour, le samedi, moi j'avais avec un copain, on n'avait rien fait encore, on regardait les autres gagner, etc. C'était dur. Je dis, on est vraiment nul, quoi, on n'y arrive pas. Et puis le lendemain, comme par hasard, je ne sais pas ce qui m'a pris, il y avait deux grosses épreuves dans un Grand Prix vraiment difficile, et j'ai gagné les deux épreuves, quoi. Donc c'est des choses qui arrivent comme ça, qu'on passe d'un extrême à l'autre. C'est sûr, plus on va dans le danger, plus on va dans le haut niveau, plus on a des émotions fortes dans les deux sens, aussi bien en bas qu'en haut. Mais sinon, dans souvenir, je me souviens d'à Doha, oui, d'une finale aussi pareil. La veille, mon cheval allait pas très bien, etc. C'était une grosse finale. Il y avait une dotation de 300 000 au premier euro et
une grosse pression.
Grosse pression, et puis finalement, j'avais plus rien à perdre parce que ça allait pas très bien. Et finalement, le cheval, tout d'un coup, c'est arrivé à aller bien, le parcours s'est bien passé, et j'étais comme sur un petit nuage. Chaque fois que je voulais faire quelque chose, ça se passait bien, les obstacles arrivaient bien, le parcours s'est passé bien. Et c'était un souvenir merveilleux parce que j'étais en harmonie complètement avec le cheval, et j'ai gagné cette finale-là alors que c'était pas prévu du tout et que c'était un peu un hold-up pratiquement, mais disons que Tout, on sait quand les planètes s'alignent ou je sais pas, il y a un moment donné où tout d'un coup tout se passe bien, etc. Et ça c'est assez merveilleux parce que on a l'impression de rêver, quoi. C'est plus du tout si on n'est plus les pieds sur terre, quoi. Et en plus quand on le fait nous avec nos chevaux, on met tellement de cœur, tellement de travail avec ces chevaux, tellement de passion. Voilà, il faut aller jusque là-bas en avion, etc. Enfin bref, les compétitions c'est une grosse finale de l'année. Enfin bon. Et boum, ça arrive comme ça.
C'est drôle parce que j'ai eu la chance d'interviewer quelques autres athlètes, alors dans des domaines très différents, mais qui me parlaient, il y avait un peu des mots similaires à vous qui me disaient qu'on est un peu comme sur un nuage, que ça, en fait, que tout fonctionne.
Ouais.
Et c'est un peu tout d'un coup, on rentre dans une espèce de flux comme ça, où on est en parfaite harmonie. Et donc, j'ai l'impression que c'est ce que vous avez vécu à Doha, d'après ce que
oui.
vous
oui,
disiez.
Oui, tout à fait, oui.
Vous avez réussi à identifier, en fait, les moments où ça arrive, en fait, pourquoi ça arrivait, enfin, s'il y avait des circonstances particulières. J'ai l'impression que vous disiez que vous n'aviez rien à perdre, donc peut-être que vous aviez un état d'esprit aussi particulier.
Eh oui, oui, tout à fait. Mais je crois que c'est encore une fois, c'est l'ego, la volonté, tout mélangé qui fait que, qui nous entrave la plupart du temps.
Ouais.
Qui nous empêche. À partir du moment où on n'a plus rien à perdre, on n'a plus rien à défendre, puisque notre image, elle ne vaut plus rien, Et alors, à ce moment-là, on va chercher des ressources et sans camouflage, sans pensée qui soit perturbatrice pour le sport, pour l'harmonie, pour la performance. Pour être performant, c'est ce qu'on appelle le lâcher prise. Hein. Pour être performant, il faut dans tous les gestes, que ce soit en ski ou en tennis ou un peu importe, ou en golf, le moment où on fait le geste précis qu'il faut, le mental n'est plus là, c'est le geste se fait tout seul. Mais pour ça, il faut avoir un lâcher-prise terrible, complètement un travail sur soi-même qui est vraiment important. Et c'est ce qui est passionnant dans les sports, bien plus, parce qu'on a le résultat immédiat et où la moindre crispation, et encore à cheval, c'est la transmission de pensée avec les chevaux en plus, donc... Et la moindre erreur dans une pensée peut être...
Oui, le cheval le sent, en fait,
ah oui,
au final.
Très, très rapidement, oui.
Ça
met une fraction de seconde entre ce que vous pensez et ce que le cheval réagit. Ça va très, très vite, oui.
Vous avez constaté vraiment que quand, je sais pas, vous n'êtes pas bien, le cheval, il le sent...
À 2 kilomètres, oui.
Incroyable, quand même.
Oui, oui.
Ils ont une...
C'est vraiment... Alors, il pardonne beaucoup, bien sûr, c'est comme... Mais c'est impressionnant, oui. C'est impressionnant.
Ça m'amène à vous poser des questions sur le coaching, puisque vous en faites, vous le disiez, pour des cavaliers, se lâcher prise. Comment est-ce que vous arrivez à leur faire, alors je dirais pas que vous leur faites faire, mais puisque c'est un peu le Graal et que c'est finalement ça aussi qui fait qu'on atteint le geste parfait, qu'on est bien, j'imagine qu'il y a un certain nombre de conditions qui nous permettent d'y aller. Il faut beaucoup, beaucoup s'entraîner d'abord, donc quand même maîtriser le geste, ça je peux imaginer, mais pour arriver dans cet état un peu de plénitude, est-ce que ça passe par quoi? Construire de la confiance, être bien dans ses baskets, avoir une qualité de vie en dehors du sport qui est bonne? Enfin, quelles sont les choses que vous avez constatées et que vous leur transmettez?
Oui, c'est un peu tout. Enfin, personnellement, je fais du yoga justement pour ça, pour être bien dans mon corps et bien dans ma tête. Je pense que c'est important. La préparation est très, très, très importante. L'anticipation, la préparation, la programmation mentale de l'événement, du geste, est très importante. Donc, c'est de la répétition avec des préparateurs mentaux, si on en a, ou on le fait soi-même. Mais je pense qu'il est important de pas se laisser polluer après par des pensées négatives. C'est ce qui arrive beaucoup à nous en équitation, enfin, mais même dans la vie de tout le temps. C'est-à-dire que oui, mais, quoi. Le mental, il vient là pour contrer un peu ce qu'on souhaiterait faire ou nous met le doute, encore une fois. Donc, je pense que, en tout cas, en ce qui me concerne mes élèves, je leur donne une des priorités et leur mettre dans leur mental et leur disant, bah, écoute, tu vas venir sur cet obstacle-là en pensant à ça et uniquement, par exemple, de penser que tu vas sauter la montagne qui est derrière l'obstacle et cet obstacle-là, c'est pas grand-chose. Donc, tu vas me faire croire que on doit pouvoir regarder et te regarder et voir que effectivement, quand tu es à la bord de l'obstacle, tu penses que tu vas sauter la montagne là-bas. Et de toute façon, là, tout le corps, tout le mental se met tranquille et le cheval aussi pour aller sauter cet obstacle-là. C'est un exemple un peu comme ça, mais le lâcher prise, c'est En fait, c'est de savoir à quel moment je me laisse polluer par mon mental, par ce qui, ma discussion dans ma tête, quoi.
Ouais.
Qu'est-ce qu'elle est, voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête et à quoi ça me sert? Moi, j'ai pour principe pour les grandes compétitions de dire, OK, le dimanche matin, c'est le Grand Prix l'après-midi, de dimanche matin jusqu'à, j'ai mon timing, mon programme. Et en dehors de ce qui me concerne, mes affaires personnelles, mon cheval et le parcours que j'ai à faire, tout le reste n'a aucune importance. C'est-à-dire que je balaye directement. Je peux avoir des personnes qui viennent, ou etc. Je dis oui, mais laissez-moi tranquille. Enfin, je veux dire, en dehors de ces priorités-là, ne pas laisser rentrer dans le mental des pensées qui pourraient être destructrices. Effectivement, plus l'enjeu est grand, plus notre mental nous ennuie, hein, nous enquiquine. Si on est là dans le canapé, c'est très facile, mais quand on est à la bord d'une finale aux Jeux Olympiques...
Où on s'est entraîné pendant des années pour y arriver, on a une pression de dingue en plus, voilà. Avec le public, c'est vraiment terrible, quoi.
Ben, c'est ce qui est terrible, c'est notre mental. C'est pas le public, parce que le public, il ne peut rien, il est là, qu'il soit en carton ou en image, ou... c'est le résultat, on verra bien ce qu'il en est. C'est le moment présent, chaque seconde est importante de la gérer, chaque fraction de seconde est importante de gérer et de ne pas laisser se déborder par un mental qui veut justement nous emmener qui veut un endroit où on ne veut pas aller, quoi. Je veux dire, il faut pouvoir se servir de soi, toutes ses possibles, ses capacités, et pour ça, lâcher prise et lâcher ses pensées. C'est qu'un contrôle des pensées, et ça, c'est un sacré travail.
Travail d'une vie, ça, c'est sûr.
Ouais.
Justement, est-ce que vous avez vous-même mis en place des pratiques, vous parliez de yoga, pour vous entraîner au lâcher prise, faire en sorte de vous sentir bien, d'être dans l'instant présent, réussir, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire quand même, de réussir à chasser toutes ces pensées, surtout dans nous, on va dire, pauvres personnes, on a des moments où, on a la pression parce qu'il faut faire une présentation en public, ou on va demander une promotion à notre supérieur hiérarchique. Donc, il y a aussi des grands moments de pression comme ça dans la vie, et c'est important d'apprendre justement à être bien et dans l'instant présent quand on les vit. C'est encore plus le cas, évidemment, de sportifs, d'athlètes de haut niveau qui, eux, sont confrontés régulièrement à des moments où ils doivent performer. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce que vous avez mis en place toute votre vie pour réussir à mettre en place ce lâcher prise?
Ben là ça me fait penser, j'ai bientôt fini un livre que j'ai écrit justement à ce niveau-là pour qui s'appellera Champion dans la tête ou un parcours d'obstacles. La vie est un parcours d'obstacles. Je crois que c'est pour tout le monde pareil. C'est que chacun a sa façon de vivre, chacun a ses challenges, que ce soit avec ses amis, ou avec son bout de travail, ou avec ses écoles, ou enfin, etc., peu importe. Chacun a ses difficultés, et je crois que chacun a besoin d'aide et de comprendre. Et je lis dans ce livre-là, je dis, en fait, on nous a donné un mental, on nous a donné un corps, mais à l'école, on nous a jamais appris le mode d'emploi. Donc, il faut avoir le mode d'emploi du mental. Il y a plein de personnes qui pensent que ce qu'ils ont, ce que leur pensée, c'est la réalité. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas parce que je pense à cette chose-là que c'est la réalité, forcément. Donc, il faut mettre un petit peu. Alors, c'est un sacré. Il y a beaucoup à faire. Et je vous conseillerais de me lire mon futur livre.
Ça serait, il sera.
C'est important. C'est important aussi de remettre en cause ses croyances, parce qu'il y a on nous a appris plein de choses qui sont complètement fausses et qui sont de remettre en cause les plein de croyances et faire ses propres croyances personnelles. Je veux dire, il faut que pour croire en soi, il faut les tester et pas avaler tout ce qu'on nous dit comme étant des choses sûres à 100%, parce qu'on nous raconte quand même beaucoup de bêtises et on nous a appris beaucoup de bêtises, malgré que j'ai eu des parents qui étaient formidables et très ouverts. On a quand même repassé tout le au crible. Toutes les croyances, et puis les changer ses croyances, changer le changer ses habitudes, beaucoup changer ses habitudes pour arriver justement à essayer et à tester des nouvelles façons de faire, des nouvelles et voir ce que ça donne. Et c'est ce qui est intéressant. Mais le mental, c'est que de la contrôle de pensée. Alors, on ne va pas parler de méditation ou de choses comme ça parce que c'est un peu à la mode aussi. Mais je pense que le fait de prendre conscience que ce qui se passe dans ma tête, c'est, il faut le contrôler. C'est un peu, je fais la comparaison avec un cheval fougueux qui est dans la tête et qui part dans tous les sens. Quoi. Donc, il faut canaliser un peu ce mental fougueux et lui dire, comme je disais tout à l'heure, ce qui concerne maintenant, c'est la compétition qui m'intéresse. Le reste, on verra ça plus tard. Même si c'est des ennuis ou des problèmes importants, on balaye ça et il n'y a qu'une focalisée sur un objectif en restant sur ses priorités. Ça, c'est ce qui est important pour moi.
Vous auriez un exemple d'une croyance que vous avez réussi à changer? Quelque chose qui vous vient à l'esprit. C'est quand même pas évident de changer une croyance.
La croyance la plus monstrueuse que j'avais, c'était qu'il fallait manger de la viande pour pouvoir vivre, quoi. Par exemple.
Oui, vous aviez ça inculqué, en fait, depuis l'enfance.
Oui, je crois que c'est tout le monde. Je pense qu'on ne peut pas vivre sans manger de viande. Ça fait 15 ans que je ne mange plus de viande, que je n'avais pas envie de manger d'animal, de vache ou d'agneau. Ou de poules, etc. Je mange plus du tout d'animaux et pour différentes raisons, mais surtout pour ma santé et je m'en porte très bien. Bon, ça c'est des croyances. Non, tu te rends compte, tu fais du sport, tu vas perdre des muscles, tu vas plus être opérationnel. Enfin, tous les schémas de 95% des personnes disaient, t'es de la folie d'arrêter de manger de la viande. Bon, ça c'était une croyance comme une autre, mais après, c'est... Non, je crois qu'il y a plein de choses qu'il faut, chacun doit remettre en question, c'est sa façon de voir. Je crois qu'on se heurte souvent à des choses, et tant qu'on n'a pas fait l'expérience, essayez de ne plus manger de viande pendant 6 mois, puis vous allez voir si vous allez mourir, mais non, vous n'allez pas mourir.
C'est sûr, on vous rassure, chers auditeurs, vous n'allez pas mourir si vous arrêtez de manger de la viande.
Et puis ça sauvera la planète en plus.
Vous parliez de méditation. Effectivement, c'est un sujet qui est à la mode, mais qui, je suis sûre, intéressera certaines personnes qui nous écoutent. Vous pratiquez la méditation depuis un certain temps?
Alors, je veux dire, c'est un peu vague. C'est un peu vague dans le sens où je ne prends pas une heure en restant assis et en essayant de... Non. Par contre, j'essaye d'être conscient de mes pensées et à quoi elles me servent. Voilà, je crois que c'est surtout ça la simplicité que je trouve, c'est que je me laisse pas embarquer par une pensée en disant « Oulala, mais qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que je vais faire ?» Donc je pense que ma méditation à moi, c'est celle-là. Voilà.
Vous arrivez à
chacun
couper.
Chacun a son truc.
Bien sûr.
Moi, c'est quand je me vois embarqué par un sujet, et bien sûr que si c'est un proche ou une proche ou qu'on aime beaucoup, évidemment, ça, certainement qu'on a beaucoup plus de cœur et on a beaucoup plus de mal à se détacher de cette pensée-là. C'est normal. Si c'est quelqu'un à qui on n'a rien à faire et qu'on connaît à peine, ça, on s'en détache plus facilement. Plus ça nous touche, plus ça touche notre cœur, plus ça touche notre envie. Donc, nous, c'est le cheval, c'est notre entourage proche, et ma femme, c'est des amis proches. Ok, mais donc je crois que cette méditation-là, justement, dire ok, ça va, mais je ne vais pas me rendre malade pour ça. Quoi. Je veux dire, il y a beaucoup de maladies aussi qu'on sait qui viennent du mental, ce pauvre mental qui nous amène on rencontre des personnes négatives à une force terrible qui sont vraiment tout dans leur vie et qui se plaignent de leurs ennuis, qui se plaignent de leurs amis, qui toute la journée au téléphone passent du temps à dire « tu sais ce qu'il m'a dit, mais tu sais, c'est incroyable ce qu'il m'a fait, après tout ce que j'ai fait pour lui ou pour elle, tout ce cinéma-là qu'il faut arrêter vite, parce que sinon ça entretient, quoi. » Et je crois que c'est assez important de gérer ce petit cheval fougueux qu'on a dans la tête, quoi.
Vous parliez justement pour réussir à faire ça dans ce que j'ai lu sur vous de la manière dont de votre propre vie et on va dire de votre qualité de vie et donc du fait de faire du sport, de faire du yoga, de ne pas manger de viande, enfin d'être vraiment, en fait, finalement, de mettre le corps aussi au service de l'esprit et d'utiliser la nature, le corps, les émotions pour se sentir bien. À quel moment dans votre vie est-ce que vous avez commencé à vous dire qu'il fallait vraiment que, que votre qualité de vie allait avoir un impact sur votre mental? Est-ce que vous vous rappelez de quand
ça? Beaucoup trop tard.
Mais il n'est jamais trop tard, vous en êtes la preuve.
Je pense que jusqu'à 35-40 ans, j'ai fait un peu toutes les conneries qu'on pouvait faire.
C'est-à-dire que vous ne preniez pas trop soin de votre qualité de vie, quoi?
Ben, pas du tout.
Bon, il faut dire qu'avec
café,
les voyages et tout.
J'ai tout fait faux.
Et qu'est-ce qui a été le déclic?
C'est cool, je disais, pour les droits, il faut commencer par faire tout de travers. c'est un peu ça. Et non, je pense qu'après, je pensais mourir à 35 ans, donc je m'en foutais. À 35 ans, je dis, il faut peut-être que je change mes croyances. Et je vais voir un peu plus loin. Et non, et à ce moment-là, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce qu'il faut? Et puis après, je me suis aperçu que finalement, que mon corps, ben, j'allais le garder jusqu'au bout, hein, que mon argent, ma famille, les chevaux, n'importe quoi, enfin tout, il n'y a qu'une chose que j'étais sûr de garder normalement jusqu'au bout, c'est mon corps. Donc, prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester, quoi. Donc, j'ai pris soin de mon corps, oui, effectivement. Et là, encore une fois, envers et contre tout, parce que je me souviens très bien qu'un médecin à 35 ans m'avait dit, de toute façon, vous avez mal au dos, vous avez deux hernies discales, vous êtes foutu, arrêtez de monter à cheval. J'ai dit, toi, Coco, tu viendras me revoir bientôt. Et donc, j'ai pris tout à l'envers. Il a fallu sortir des routes complètement pour envoyer balader tous ces gens qui font manger de la viande, t'es foutu, enfin, etc. J'ai tout envoyé balader ça, quoi. Très fort, parce que j'étais un petit garçon qui avait peur des autres, et j'ai dit, bon, mais c'est peut-être eux qui ont raison, etc. Et non, pas du tout. Et donc, j'ai envoyé tout balader ça, et j'ai repris tout à zéro, arrêter la cigarette, arrêter le café, limiter l'alcool, arrêter la viande, faire du yoga, sans que ça se fasse tout le même jour, hein, attention, hein, ça m'a pris quelques années. Mais surtout, ce qui est extraordinaire dans le corps humain, c'est que d'entre l'âge de 60 ans et 70 ans, je me suis assoupli incroyable, aussi bien dans ma tête que dans mon corps, et que j'avais toujours eu des douleurs toute ma vie, là maintenant j'en ai pratiquement jamais, plus du tout. Donc tout plein de choses qui, quand on le corps et le mental, ils sont très très liés. Écoute ton corps, disait Lise Bourbeau, hein, écoute ton corps, c'est ton meilleur ami. Et quand ton corps te dit quelque chose, écoute-le, parce que c'est vraiment important. Si lui, il est obligé de te dire quelque chose, c'est que tu n'as déjà pas compris dans ton mental, quoi.
Ça, c'est une croyance qui est vraiment importante, je pense, pour beaucoup de monde, qui est qu'en fait, quand on vieillit, forcément, on s'amenuise.
Ah, mais c'est faux, complètement faux. Alors là, je peux vous dire, je prouve le contraire. Hein, parce que moi, j'ai eu une vie au départ avec pas de repos, vraiment dur depuis l'âge de tout gamin, quoi. À travailler tous les jours dans les chevaux, il n'y a pas de jour de repos, etc. Et on peut progresser tardivement. Et ça, c'est une excuse. J'ai des amis qui croyaient être foutus à 40 ans et qui se pensent foutus à 40 ans. Et puis, je les vois vieillir et c'est des épaves maintenant, quoi. Je veux dire, ils ont 60, 70 ans, des épaves. Donc, c'est ce qu'on croit dans la tête est vraiment important. Ça, c'est primordial d'abord pour soi, puis après, bien sûr, sur le terrain, si on veut réussir une affaire, si on veut réussir une compétition, mais si on, il faut déjà avoir le matériel pour le faire, et puis la tête pour le faire, quoi.
Et puis, vous êtes l'exemple même que le corps est plus plastique qu'on ne croit, c'est-à-dire on peut être pas bien à un moment dans sa vie, et je dis pas que tout est possible,
bien
mais il y a quand même...
Oui, il y a de l'espoir, toujours. Il y a de l'espoir, mais ça, on ne nous l'a pas appris non plus, ça, c'est partie du mode d'emploi, on aurait dû nous le donner quand on était jeune. Je disais, non, de toute façon, t'as vu, le gars, il a 45 ans,
ouais,
c'est déjà un vieux, quoi. Ouais, je me souviens de ça, je l'ai dit, moi. Mais c'est pas vrai. Alors, si on veut être vieux à 45 ans, on peut,
et
oui.
Et on peut, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Mais on peut... Je peux vous demander votre âge, Michel?
J'ai 73 ans, moi.
Bah, 73 ans, et vous avez encore énormément de projets, enfin, non seulement encore, mais
vous continuez
à avoir... J'ai lu quelque part que vous disiez que vous vouliez continuer à monter à cheval jusqu'à 100 ou même peut-être 120 ans.
Ouais. Je dis ça, oui. Bon.
Bah, pourquoi pas?
C'est une antidote. C'est-à-dire que si, c'est comme l'obstacle. Si je me mets mon truc en disant, bon, non, 75 ans quand même, mais il faudrait quand même, tu penses à arrêter.
Ouais, c'est
mais
ça.
Tu t'arrêtes, ta vie, elle s'arrête à l'obstacle.
C'est ça.
Ta vie,
c'est dans la tête, quoi.
Moi, j'ai 120 ans, je pense que là, normalement, j'ai un peu de place. Donc, d'ici là, j'ai le temps de refaire mes croyances.
Bah, c'est bon, vous avez 50 ans.
150
ans. Vous avez 50 ans encore.
À 120 ans, je dirais, il faut aller à 150 ans.
Bah écoutez, moi, vous savez, avec mon mari, on s'est toujours dit qu'on voulait, on voulait s'éteindre autour de 102 ans, minimum, parce qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'on aura vécu, je crois, 80 ans, on aura fait 80 ans de vie de couple, et on s'est dit que c'était un bon moment pour fêter nos 80 ans de vie de couple, et puis ensuite.
Ouais, Bibi, dans 20-30 ans, vous allez changer, vous allez rajouter encore une dizaine d'années, quoi.
Sans doute.
Oui, on peut toujours changer, après, il faut rester souple.
Exactement. Pour terminer, Michel, j'ai un petit crible à la fin du podcast où je pose toujours les mêmes questions et je serais très curieuse d'avoir vos réponses. La première, c'est est-ce que vous avez vécu un grand échec dont vous vous rappelez bien sûr et surtout les enseignes qui vous a particulièrement marqué qui a été peut-être un échec un peu salutaire et les enseignements que vous en avez tirés.
L'échec, il y a un truc qui m'a fait beaucoup de mal, c'est j'avais une très bonne jument que j'avais débutée et qui avait fait vraiment commencer tout sur des petites épreuves et que j'ai emmené jusqu'au championnat du monde. Et j'étais deuxième au championnat d'Europe l'année d'avant, deuxième au championnat du monde. Et à la suite de ça, le propriétaire qui était mon sponsor a changé d'avis, il a changé de tête. Et alors qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivaient, donc il m'a retiré la jument pour la vendre. Et donc ça a été un coup très très dur. Je me suis battu, j'ai essayé de trouver de l'argent pour acheter cette jument-là. Et ça a été vraiment un moment très très dur parce que pour moi c'était la continuité, championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux Olympiques et puis bon c'était... Et donc ça a été assez dur pour moi d'encaisser ça et de faire confiance après aux gens, aux personnes parce que bon, cette personne-là avait tout lieu d'être satisfaite de mes résultats, hein, le propriétaire du cheval, et donc il m'a retiré. Donc ça a été assez difficile. Bien sûr qu'il a fallu un moment de digestion, et puis après, ben, je suis reparti. C'est reparti avec d'autres chevaux, en disant, bon, mais cette fois, quand je montrerai un cheval, ça sera un cheval ou à moi, ou à la moitié, j'en achèterai la moitié pour être sûr que le propriétaire ne l'enlève pas, quoi. Mais ça a été un des moments difficiles. Échec. J'appelle pas ça échec. Pour moi, c'est dans les épreuves. Bon, bien sûr que j'en ai plus perdu que j'en ai gagné. Mais c'est chaque fois une nouvelle expérience. C'est chaque fois quelque chose à tirer. On prend un petit coup sur le nez, sur la casquette. Et puis, on dit qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, on repart sur le nombre d'épreuves. Bah, puis après, on fait le bilan en fin d'année. Et puis, en général, ça va quand même. Le bilan est plutôt positif.
Oui, dans votre cas, c'est clair. S'il y avait quelque chose à refaire, ça peut être dans votre vie personnelle, professionnelle, peu importe. Qu'est-ce que vous referiez différemment?
Ah ben le début, j'achèterai mes livres et puis je les lirai et je changerai.
Vous étiez un peu cancre quand vous étiez plus jeune.
Oui, oui.
Bon, en même temps, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez eu plus de temps pour monter à cheval et vous intéresser à la nature.
Ah oui, oui, moi avec le cheval, l'école, ça m'a pas fait grand-chose là. Non, qu'est-ce que je referais? Je pense que oui, je pense que c'est le mode d'emploi de la façon de vivre. Je suis très heureux, très très heureux d'avoir pu vivre dans une période où on pouvait trouver les informations. Aujourd'hui, on peut trouver toutes les informations pour vivre mieux, pour chercher, pour avoir toute cette philosophie orientale qui nous est venue et qui nous a fait un bien fou et qu'on est sorti des religions qui sont... Les religions sont très bonnes, mais l'interprétation est souvent mauvaise. Mais cette philosophie orientale, cette façon de fonctionner, et moi, ça m'a collé à la peau directement. J'ai dit, mais c'est vraiment ça que ça correspond à ce que je recherche. Et ça a été pour moi sauveur. Oui, je suis très, très, très content et je remercie le ciel de m'avoir apporté tout ça, quoi.
Quand est-ce que vous avez découvert justement des philosophies orientales? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous tombiez là-dedans?
Progressivement, je pense que c'est toujours une recherche. Hein, je me tapais la tête contre les murs. Je me disais, c'est une recherche. Moi, bien sûr, j'étais de religion catholique et je trouvais pas, ça me plaisait pas. Il y avait plein de choses que j'arrivais pas à comprendre ou c'était pas assez clair, c'est pas assez simple, c'est pas assez. Et Moi, j'ai commencé à l'âge de 35, 40 ans, 40 ans par là, et j'ai changé un peu de façon de dire, et progressivement. Et maintenant, j'en sors plus. Je suis complètement dedans pour justement comprendre. Puis, tellement de répéter, tellement, c'est comme dans le sport. Il faut répéter beaucoup, beaucoup, beaucoup pour prendre de nouvelles habitudes, changer ses habitudes. Et donc, je continue à lire, à m'informer, à regarder des podcasts aussi, à écouter des gourous un peu, des choses comme ça avec leur philosophie. Je trouve ça super.
Est-ce qu'il y a une maxime, une citation qui vous plaît particulièrement, des mots de sagesse peut-être que vous pourriez partager avec nous parce que c'est des choses qui vous ont porté à un moment dans votre vie aussi ou peut-être toujours actuellement?
Oui, il y a une chose qui choque un peu, que j'aime bien dire, c'est la peur n'existe pas. Ça oblige à réfléchir un peu parce qu'en fait, elle n'existe pas. Sur le moment même, il y a la peur. On en a besoin d'un peu de vigilance, mais la peur n'existe pas pour moi. Et si elle vient là, je dis, c'est pas de la peur, qu'est-ce que c'est, quoi? Pourquoi ça? Pourquoi cette réaction-là? Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de grandes choses difficiles qui peuvent être divisées en petites choses faciles, agréables. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de façons de voir. Moi, ma chose, c'est le regard, oui, la vision du futur et qui me sort un peu du moment présent. Toujours prendre un peu de la distance, un peu de recul par rapport au moment présent. Je crois que c'est un peu ça. Ouais, je sais pas.
Cette question de la peur, c'est vraiment passionnant. Vous dites la peur n'existe pas. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer et expliquer pour les personnes qui nous écoutent et puis pour moi, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que d'autres personnes vous diront, moi, la peur, si, j'en ai de la peur. Je peux vous dire que quand je me mets face à du vide, j'ai peur. Face à une situation compliquée, j'ai peur. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par la peur n'existe pas?
La peur n'existe pas, c'est une imagination du mental, encore une fois. C'est une projection du mental dans le futur.
Mais on anticipe quelque chose
qui pourrait arriver. Le nombre de peurs que l'on a et qui 2 jours après ou 1 heure après, il n'y a plus rien. Donc, elle n'existe pas. C'est une projection du mental.
C'est l'imagination.
Dans l'obscurité, la corde qui est par terre, on croit que c'est un serpent. Quoi, ouais. Finalement, c'est une corde. Enfin, on connaît ça, mais la peur... La peur n'existe pas. Elle en tout cas, maintenant, il se met à brûler ici tout de suite, il y a un incendie, ça ne sert à rien d'avoir peur.
Oui, c'est vrai. Vaut mieux fuir.
Savoir qu'il y a une fenêtre, ouais. Et si on saute, ça ne va pas aller, mais il vaut mieux être très vigilant et être conscient plutôt que d'avoir peur. La peur, c'est très, très. Et puis à cheval, on le voit bien, c'est les plus gros défauts qu'on a quand on. De mes élèves, on les voit très bien, ils galopent bien, c'est joli à voir. Et puis, plus ils s'approchent d'un obstacle, plus c'est la catastrophe.
Ouais.
Ils se raidissent, ils regardent par terre, et c'est la peur qui les envahit, alors que c'est le même cavalier, même cheval au même moment. Donc, dans la vie de tous les jours, c'est pareil. prendre conscience de ce qui est maintenant, et c'est ça le plus important.
Ouais, la peur nous empêche d'agir. Alors qu'elle n'est rien.
Oui, elle ne sert à rien. C'est sûr que on sait que si on met la main sur une plaque rouge chaude, on va se brûler. Bon, ça. Mais il n'y a même pas besoin d'avoir peur, on le sait, quoi, je veux dire. Non, la peur. Alors, tous les gouvernements, tout le monde, les parents, tout le monde se sert de la peur, justement pour essayer d'avoir de l'emprise sur l'autre personne. Et quelqu'un qui n'a pas peur, c'est vraiment difficile parce qu'on ne peut pas le gérer, quoi. Si on a des employés qui sont terrorisés par leur patron, ce n'est pas le cas ici, je ne crois pas. Mais la peur de perdre son boulot, la peur de... Mais non, ça ne sert à rien.
Oui, puis la peur nous fait prendre plein de mauvaises décisions aussi, parce que par peur, alors que ça n'est pas encore arrivé, on peut, typiquement, la peur de perdre son boulot, du coup, rester dans un job qu'on n'aime pas parce qu'on a peur de ne pas retrouver un autre travail.
Alors, la peur, la définition de la peur, c'est de passer du connu à l'inconnu.
Mm-hmm.
Mais autant rester dans le connu, c'est tout.
Oui, c'est vrai.
C'est d'aller dans l'inconnu, ça fait peur. Mais bon, alors, il faut un peu de courage pour aller dans l'inconnu sans peur. Voilà, on va dire ça comme ça.
Une dernière question pour vous, Michel, et ça sera l'occasion aussi de parler de votre livre, justement. Est-ce qu'il y a un livre ou des livres qui vous ont particulièrement marqué, que vous lisez peut-être d'ailleurs régulièrement, que vous pourriez évoquer, enfin nous décrire pour qu'on comprenne, et puis peut-être parler aussi de votre livre.
Oui, on en parlera après, mais je pense que non, dans les livres qui m'intéressent beaucoup et qui m'ont marqué, les clartés, c'est un écrivain qui s'appelle Eckhart Tolle,
ouais.
Et qui a écrit dans le moment présent beaucoup de livres différents, qui a des podcasts aussi. Il y a aussi des gourous qui s'appellent... Il y a Krishnamurti, je ne sais pas si vous connaissez,
non,
mais c'est un hindou qui a écrit des livres, qui a fait beaucoup de conférences, écrit des livres qui sont assez clairs à comprendre.
Hein. D'accord.
Il ne fait pas de cadeaux.
Ah bon, il est direct.
Il est direct et c'est un peu dur. Ça remet justement en question un peu tout. Et c'est bien. Eckhart Tolle, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un livre que je conseille beaucoup à tout le monde, c'est les 5 Tibétains. C'est des mouvements que je fais tous les matins depuis de nombreuses années. C'est un des exercices du matin qui compense, qui permettent de faire ça, une sorte de yoga actif et qui fait progresser toutes les jeunes personnes qui ont mal au dos, qui ont des raideurs, etc., et qui ont besoin de faire quelques mouvements. Elle s'appelle les 5 Tibétains. Vous trouvez ça sur YouTube. Dans les... Et c'est des mouvements qu'on répète 21 fois, qui me permettent, moi en tout cas, de bouger. Et tous ceux que j'ai conseillés ont été vraiment séduits par ça. Après, il y a plein de livres qu'on recherche, et suivant où on en est sur notre route, on peut trouver. Le mien, il sera très très bien.
Alors justement, vous me faites une belle transition. Parlez-moi de ce livre. Déjà, le titre.
Le titre, il n'est pas trouvé encore. Ça va être Champion dans la tête, je pense.
Champion dans la tête, c'est bon titre.
Oui, ou un truc
sympa.
Comme ça. Enfin, ça peut...
Et donc, ce livre sort quand ?
D'ici la fin de l'année,
donc fin 2022. Donc là, vous êtes en plein dans l'écriture.
Fini, ouais, pratiquement
quasiment fini. Et donc, vous disiez que justement, ça parle de mental, a priori, vu le titre.
Voilà, avec des expériences, sur mon expérience, bien sûr, parce que j'ai fait tellement de milliers de parcours, etc. Et puis surtout, cette recherche sur le terrain, et non pas scientifique, parce que je ne suis pas un scientifique, mais je recherche sur le terrain, pas à pas, les manières, et tester aussi les façons de faire et le fonctionnement aussi. C'est tout un... Je crois qu'il y a plein de vérités, et c'est vrai que ce livre, si je l'avais lu, si je l'avais lu quand j'avais 10-15 ans, je pense qu'il m'aurait aidé beaucoup, 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 beaucoup. Mais bon, j'aurais pas eu la même vie non plus. Hein.
Certainement. Et donc ce livre, je le mettrai en tout cas en avant quand il sortira, mais donc un petit peu de patience encore. Et je vous remercie Michel pour votre temps, c'était passionnant.
C'est passionnant, j'espère que ça sera passionnant pour vous, et je crois qu'il faut vraiment regarder devant et revoir ses croyances, et puis voilà, et continuer à avoir foi en soi, croire en soi. Courage, joie et amour. Voilà.
Pour terminer, Michel, pour les quelques personnes qui aimeraient vous retrouver, vous suivre un petit peu plus en détail, quel est le meilleur moyen de suivre vos actualités, justement de savoir exactement quand est-ce que le livre va sortir, etc. Enfin, est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux ou
Oui, bien sûr. J'ai un site qui s'appelle Ors Academy. Mm-hmm. Ors Academy by Michel Robert. Qui donne aussi des séances, des conseils, etc. Donc, on peut, à travers ce site-là, me retrouver, tout à fait.
Et je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Michel, merci mille fois pour votre temps. C'était
un plaisir.
Et puis, à bientôt, peut-être.
Oui, avec plaisir.
Bye bye les amis, c'est la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, quelques détails en plus. D'abord, pour toutes les infos sur le podcast et cet épisode, ça se passe sur polinegno.com, vous aurez tout promis, juré. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn, Instagram ou YouTube, je vous attends. Enfin, encore mille merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère de tout cœur que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.